aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuya et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. En votre compagnie, Idrissa Sebuya pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, les autorités ont relâché les leaders de la contestation qui réclament un changement de pouvoir dans un apparent geste d'apaisement après les troubles semblants qui ont agité la capitale Bamako la semaine dernière. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré. Par ailleurs, démission de Karim Keïta, fils du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, de l'importante présidence de la Commission parlementaire de la Défense. Des manifestants ont utilisé sous forme de posters des images le montrant lors de joyeuses fêtes à l'étranger avec des amis et en compagnie de jeunes femmes peu vêtues pour le présenter comme un personnage aux mœurs légères pouvant se payer du bon temps alors que son pays souffre. Et puis le procès du djihadiste malien Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariages forcés et destruction de mausolées à Tombouctou, s'ouvre ce mardi devant la Cour pénale internationale, la CPI. La Côte d'Ivoire a créé une zone opérationnelle dans le nord du pays pour empêcher toute infiltration de groupes armés terroristes devant l'insécurité persistante aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Il y a un peu moins d'un mois, des djihadistes ont attaqué un poste de l'armée à Kafolo, faisant 14 morts dans la nuit du 10 au 11 juin. Au Nigeria, 10 soldats ont été tués hier par des djihadistes dans deux incidents séparés dans le nord-est du pays, selon l'AFP, citant des sources sécuritaires. Il y a une semaine, 35 soldats nigérians avaient été tués dans cette même région et 30 étaient portés disparus. En République centrafricaine, un casque bleu rwandais a été tué hier et deux autres blessés dans une attaque menée par un des principaux groupes armés centrafricains à Gedze dans l'Ouest. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, impute cette attaque criminelle au groupe armé 3R. Covid-19 en Côte d'Ivoire, fin annoncée pour mercredi de l'isolement de la région d'Abidjan. Maintient en revanche d'autres mesures, l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 30 juillet, les frontières terrestres et maritimes restent fermées, ainsi que les bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle. La Côte d'Ivoire compte 12 766 cas, dont 84 décès. Plus de 13 millions de cas officiellement relancés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes, selon un comptage de l'AFP hier. Et l'OMS s'est inquiétée du trop grand nombre de pays qui, face au virus, prennent la mauvaise direction. Et son patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu que le retour à la normale n'était pas pour demain, alors que nombre de régions et de villes continuent à reconfiner et que l'Amérique du Sud est désormais la deuxième région la plus endeuillée. Le Japon a accusé mardi la Chine de désinformation sur le coronavirus et a exprimé ses vives inquiétudes sur ses revendications en mer de Chine méridionale ainsi que sur les îlots Senkaku-Diaoyu disputés entre les deux pays. Les deux leurs relations diplomatiques se sont rafraîchies ces derniers mois sur fond de mécontentement de nombreux pays envers la gestion chinoise de la crise du coronavirus, puis face au tollé international suscité par la loi sécuritaire imposée à Hong Kong. De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a prévenu lundi que les États-Unis considéraient les revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale comme illégales, accentuant la pression sur Pékin, Pékin qui a dénoncé, je cite, « des accusations totalement injustifiées ». La Cour suprême des États-Unis autorise la reprise des exécutions fédérales après 17 ans en invalidant la suspension de 4 exécutions décidées la veille par un tribunal de Washington. Les exécutions fédérales devaient reprendre hier. La suite de nos informations. Au Mali, les 3 leaders du M5 RFP, arrêtés suite aux incidents de vendredi et samedi à Bamako, ont été libérés. Issa Kaoundjim Choguel Kokala Maïga et l'imam Omar Diara étaient en détention au camp 1 de la gendarmerie. Au même moment, les représentants de la communauté internationale, la MINUSMA, l'UA, l'UE et la CDAO, ont échangé avec les responsables du M5 RFP pour une sortie de crise. À Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Selon le procureur général près la cour d'appel de Bamako, c'est suite à l'épuisement des délais de garde à vue que des personnes interpellées à la suite des événements de ces derniers jours ont été élargies conformément à la loi par leurs différents procureurs de la République, en attendant la fin des enquêtes et les suites à y réserver. Comme pour dire que Choguel Kokala Maïga, Issa Kaoudjim et l'imam Omar Diara ne sont pas encore situés sur leur sort. Le procureur précise que c'est seulement au niveau du parquet du tribunal de grande instance de la commune 4 que des procès-verbaux d'enquête accompagnant 35 personnes ont été transmis, sur lesquels 3 ont été placés sous mandat de dépôt, 25 élargis et 7 mineurs conduits devant le procureur de la République du tribunal pour enfants de Bamako. Entre-temps, la communauté internationale échangeait avec les responsables du M5 RFP.
Depuis le début de la crise, nous nous sommes rencontrés. Ils ont donné une feuille de route quand la délégation des ministres est passée à Bamako ici, juste à la veille du rassemblement du 19 juin. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation très difficile, elle a jugé nécessaire de nous rencontrer pour faire une évaluation de la situation dans notre pays.
Malgré toutes ces actions, la tension reste vive à Bamako, surtout dans les quartiers de Badlabougou, où se trouve la mosquée de l'imam Mahmoud Diko. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, le député et opposant Biramada Abeid exige la mise en place rapide d'une haute cour de justice pour les anciens dirigeants. L'ex-président Mohamed Oud Abdelaziz a simplement ignoré une convocation la semaine dernière devant une commission d'enquête parlementaire. Le point avec Eric Manirakiza.
La haute cour est un organe prévu par la Constitution, a déclaré hier Biramada Abeid lors d'une conférence de presse à Nouakchott. Il a déploré les atermoiements des députés à la mettre en place. Une loi relative à cette haute juridiction devait être discutée jeudi par les députés, mais a été reportée. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a ignoré jeudi la convocation d'une commission parlementaire. Il devait s'expliquer notamment sur la gestion des revenus pétroliers à la vente de domaines de l'État à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement en denrées alimentaires ou encore les activités d'une société chinoise de pêche. Cette commission d'enquête parlementaire n'a aucune utilité pour le pays et ne rendra pas au peuple son argent spolié, a estimé M. Ould Abeid. Selon lui, elle entre tout simplement dans le cadre des tiraillements entre l'ancien et l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Razaouini. Arrivé au pouvoir en août 2019, Monsieur Razaouini était l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense et il a été désigné comme dauphin par Aziz, son prédécesseur.
Ici aux États-Unis, les maires de plusieurs grandes villes envisagent ou réclament un retour au confinement pour endiguer la vague de nouveaux cas de COVID-19. Toutefois, des désaccords politiques entre les différentes juridictions empêchent une réponse unifiée. Abdourahmane Dia.
Les disputes entre les multiples échelons de responsabilité dans ce pays hautement décentralisé sont fréquentes. Le maire de Houston, la plus grande ville du Texas, qui compte 4 700 000 habitants, a appelé à un nouveau confinement après la détection de 1 600 cas en 24 heures. Si j'étais le gouverneur, j'arrêterais les choses, je fermerais tout pendant 2 semaines, a déclaré ce week-end le maire démocrate de Houston, Sylvester Turner. Mais le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, n'a pas cédé à la pression. Toutefois, il n'exclut pas un confinement si la situation ne s'améliore pas. Il a récemment rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics, mesure à laquelle il avait longtemps résisté. En Floride, plus de 15 000 nouveaux cas ont été rapportés dimanche, un record. Mais le gouverneur Ron DeSantis refuse toujours de rendre obligatoire le port du masque ou de redéclencher des confinements, s'en remettant aux responsables des villes et des comtés. À Atlanta, en Géorgie, la maire démocrate a ordonné le port du masque, mais le gouverneur, un républicain, a rétorqué que cet ordre était légalement inacceptable.
La Minute Écho et Kia Badou.
La bourse de New York a fini sans direction lundi à l'issue d'une séance en dents de scie où plusieurs grandes valeurs technologiques se sont nettement repliées après des gains importants ces dernières semaines. Amazon, Apple, Facebook, Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google, ont tous fini dans le rouge. La place new-yorkaise avait débuté en hausse, portée par des espoirs d'avancer sur le front médical. La BDEAC, l'institution de financement du développement des pays d'Afrique centrale, a annoncé au terme de son conseil d'administration du 10 juillet 2020 une marge nette de 15 milliards de francs CFA en 2019. Les éléments ayant soutenu cette performance sont attendus. Ce résultat a été soutenu par un produit net bancaire de 20,13 milliards de francs CFA en hausse de 4%. Le Soudan distribue des aides financières aux familles pour atténuer la crise économique. Le versement de ces fonds doit concerner à terme 80% des 42 millions d'habitants. Cette aide est financée par une partie des 1,8 milliard de dollars accordés en juin au Soudan par une quarantaine de pays pour soutenir la transition démocratique menacée par une grave crise économique accélérée par l'épidémie de Covid-19.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Cameroun décline l'offre faite par la CAF d'organiser le Final Four de la Ligue des Champions. L'annonce a été faite par la Fédération Camerounaise de Football à travers son président Seydou Mbombo Ndjoya.
En réponse à l'offre faite au mois de mai par l'instance fêtière du football africain pour l'organisation en Final Four de la Champions League édition 2020 au stade de Japoma à Douala. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des demi-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie.
Seydou Mbombo Ndjoya, président de la Fédération camerounaise de football. L'Égypte et la Tunisie se sont proposés pour accueillir le tournoi. Hicham Ben Omran, vice-président de la Fédération tunisienne d'Itawa, saisit la CAF en proposant le stade olympique de Rades pour accueillir les matchs. Les deux demi-finales opposent le Raja de Casablanca aux Amalek d'Égypte et le Wydad de Casablanca à Al Ahly d'Égypte. Le Final Four de la Coupe de la Confédération aura lieu au Maroc. En Europe, le tribunal arbitral du sport autorise la participation de Manchester City aux prochaines Coupes d'Europe. Le club anglais avait été initialement condamné par l'UEFA à 2 ans de suspension pour manquement aux règles du fair play financier. Manchester City n'a pas déguisé ses contrats de sponsoring mais a échoué à coopérer avec l'UEFA, explique le TASS dans sa décision. Le club propriété des Émiratis est seulement condamné à verser une amende de 10 millions d'euros à l'UEFA au lieu des 30 millions d'euros initialement décidés en février. L'instance européenne du foot qui accusait le club anglais d'avoir surévalué ses revenus publicitaires portant sur la période 2012-2016. Cette décision du TASS constitue donc un soulagement pour les citizens car les pertes financières encourues par une absence de la scène européenne auraient largement dépassé les 100 millions d'euros par an. Ici aux États-Unis, Russell Westbrook, meneur vedette des Houston Rockets, a été testé positif au COVID-19. Nommé meilleur joueur de la NBA en 2017, Westbrook a rassuré ses fans sur Twitter. « Je me sens bien actuellement, je suis en quarantaine et j'ai hâte de rejoindre mes coéquipiers. Dès que j'en aurai l'occasion, prenez ce virus au sérieux, portez un masque », a écrit le joueur de 31 ans. Cette annonce par l'une des stars du basket nord-américain intervient alors que des joueurs ont commencé à arriver à Orlando pour le camp d'entraînement qui va précéder la reprise de la NBA le 30 juillet. Comme Westbrook, 2 autres joueurs des Rockets ne sont pas encore partis pour Orlando, James Harden et l'international camerounais Lukumba Moute, mais Houston n'a pas donné d'explication à leur sujet.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la situation reste donc tendue après un week-end de violence à Bamako. Des manifestants réclamant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta ont saccagé des édifices publics et bloqué des routes et des ponts dans la capitale. Les violences ont fait au moins 15 morts et arrestation de plusieurs leaders de la contestation à la suite de ces événements. Bagassi Koura a joint Yaya Konaré, enseignant à l'université de Bamako.
Moi, je pense que Mali peut sortir de cette situation par un dialogue franc et sincère. Moi, je pense que les différents protagonistes sont connus, les points à discuter sont connus. Donc, la solution, c'est entre les mains du président de la République lui-même. Donc, moi, je pense que à l'état actuel des choses, il doit accepter de s'asseoir et discuter, de dialoguer avec ces gens-là pour trouver vraiment un point d'accord. Cet accord-là est éphémère, mais quand même, ça va permettre d'apaiser vraiment la situation de façon générale. La seule porte de sortie pour le Mali dans ces conditions-là, c'est le dialogue.
Oui, le dialogue, mais il y a aussi cette dissolution de la Cour constitutionnelle. Comment vous l'avez accueillie?
Bon, ça c'est un non-événement pour moi, parce que la Cour constitutionnelle, c'est qui? C'est Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est encore Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, pratiquement, les 9 qui vont être nommés là-bas, quel que soit, comment dirais-je, leur qualité, ils auront affaire toujours à ces gens-là qui les ont mis sur place. Donc, ils ne pourront pas décider contre eux. Donc, si c'est pour dissoudre l'Assemblée nationale, Tembine quand même ne va pas nommer 3 juges là-bas pour s'auto-dissoudre. Et Ibrahim Boubacar Keïta, on sait quel a été son rôle dans l'élection de Moussa Tembine là-bas. Donc c'est fait à dessein. Et ce n'est pas ces 3 juges nommés non plus qui vont contribuer à démolir ce qu'Ibeta a mis en place. Donc pour moi, on revient à la case de départ, hein, la dissolution de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle décide du sort de l'Assemblée nationale. Bon, c'est pour ne rien faire, pour ne rien dire pratiquement. Voilà, c'est un non-événement pour moi.
Alors, il y a eu tous ces événements depuis vendredi avec au moins 15 morts. Est-ce que cela ne va pas compliquer le dialogue dont vous parlez?
Bon, après tout malentendu, tout conflit, toute guerre, ça finit autour d'une table de négociation, hein? Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces morts-là, car je m'incline devant la mémoire de ces morts. Mais quand même, on va concéder, on va faire des concessions pour pouvoir s'accepter et s'asseoir autour d'une table.
Yaya Konaré, enseignant à l'université de Bamako.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les appels au calme et au dialogue se multiplient au Mali après les violences meurtrières du week-end. La troisième manifestation organisée par le mouvement du 5 juin contre le pouvoir a dégénéré, faisant au moins 11 morts et plus de 100 blessés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle, mais ses adversaires lui demandent d'aller plus loin en organisant des élections législatives partielles. Quelle solution à la crise politique au Mali? Nous discuterons de cela avec nos invités ce jeudi 16 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA et VOA.
En Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan Duncan a démissionné. Ancien membre du PDCI, l'ex-parti au pouvoir, il était considéré comme un proche du président Alassane Ouattara. Cette démission survient quelques jours après la mort du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était le candidat désigné du RHDP, le parti de M. Ouattara, à la présidentielle d'octobre. Eric Manirakidza a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver Conan.
La démission du vice-président Daniel Kablan Duncan intervient dans un contexte particulièrement trouble pour le le pouvoir d'Alassane Ouattara. Il y a eu cette tragédie qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire et principalement et particulièrement sur le RHDP des partis présidentiels, à savoir la disparition du premier ministre Amadou Coulibaly, qui était candidat pour le compte du parti présidentiel à la présidentielle d'octobre 2020. Ensuite, on assiste à une sorte de cascade de démissions au sein du parti présidentiel, la dernière donc étant celle de Daniel Kablan-Duncan. C'est une décision qui ne surprend pas trop les Ivoiriens, d'autant que depuis quelques jours, la rumeur de cette démission était brillante sur les réseaux sociaux et dans les salons. Mais elle a été actée 5 mois plus tard, c'est-à-dire que la décision a été prise en fait depuis 27 février par le concerné lui-même. Du coup, on est dans une sorte de crise de fin de mandat et qui n'augure rien de bon pour Alassane Ouattara, surtout qu'en face, il y a une opposition qui semble déterminée à bouter son pouvoir à gagner la présidentielle d'octobre 2020 avec une alliance entre Henri Konan-Bédié et Laurent Gbagbo qui reste en liberté conditionnelle à Bruxelles.
Monsieur Kablan, il est issu du PDCI, mais un grand allié à Monsieur Ouattara. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce divorce?
Alors, plusieurs choses, à mon avis, je peux me tromper. La première, c'est que tout part donc de la modification de la Constitution en 2016, voulue par Alassane Ouattara, qui introduit dans cette Constitution donc une clause visant à sauter l'âge plafond pour être candidat à la présidentielle. Nous sommes en 2016 et dans les projections donc d'Alassane Ouattara, Daniel Kablan-Duncan, issu du PDCI et son fidèle ami depuis, je connais depuis des décennies, eh bien, Daniel Kablan-Duncan partait un peu comme le dauphin putatif de Alassane Ouattara et d'Henri Konan-Bédié, parce qu'à cette époque, les deux personnalités s'entendaient très bien. Il semblait être le candidat idéal pour le RHDP, qui englobait donc le PDCI, notamment le PDCI, le RDR d'Alassane Ouattara. Et puis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, au point où M. Daniel Kablan-Duncan n'était plus la carte majeure d'Alassane Ouattara, qui a brandi de ce fait une autre carte qui était celle de celui qui était donc son secrétaire général à présent jusque-là, Amadou Coulibaly, qui a commencé à émerger au point où il a totalement mis sous les peignoirs le vice-président de la République qui était Daniel Kablan-Duncan.
André Silver Conan, journaliste et analyste politique à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le transport de marchandises de l'aide humanitaire du Cameroun, République centrafricaine, a ralenti, entraînant des tensions entre les deux pays. Un accord stipule que les conducteurs camerounais qui sont testés négatifs au COVID-19 peuvent entrer en RCA. Mais les kits de test sont rares à la frontière, obligeant certains camions à attendre des semaines pour traverser. Reportage de notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
El Hadj Oumarou, le chef du bureau camerounais du transport routier à la ville frontalière de Garoua-Boulay, affirme que des centaines de camions n'ont pas pu aller en République centrafricaine et toutes les tentatives pour convaincre les responsables centrafricains ont échoué.
Nous avons beaucoup de difficultés. Desservir l'État centrafricain était un parcours de combattant. Le ministre des Transports nous a confirmé que son homologue de la RCA a été d'accord sur le fait que les tests réalisés au Cameroun sont pris en compte en territoire centrafricain.
La République centrafricaine et le Cameroun ont fermé leurs frontières communes en mars pour freiner la propagation du coronavirus. La Centrafrique, pays enclavé, a conclu un accord avec le Cameroun pour permettre le passage de l'aide humanitaire et des marchandises de Douala à Bangui, la capitale centrafricaine. Selon l'accord, seuls les camionneurs dont le test au Covid-19 est négatif pourront entrer en République centrafricaine. Ce plan n'a pas pu être mis en pratique à cause du manque de kits pour effectuer les tests à la frontière. Les chauffeurs, pour la plupart camerounais, ont commencé à effectuer des tests dans les hôpitaux locaux. Mais les autorités centrafricaines ont commencé à rejeter les résultats le mois dernier, lorsque le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Cameroun est passé à plus de 13 000. Les délégués des deux pays ont tenu une réunion de crise à Garoua-Boulay et la République centrafricaine a accepté de reconnaître les résultats des tests effectués au Cameroun. Le ministre centrafricain des Transports, Arnaud Djoubaï Abazen, précise que les décisions prises à cette réunion n'étaient pas définitives.
Compte tenu du fait que nous sommes régis par une convention qui lie le transport entre le Cameroun et la RCA, étant donné qu'il y a un comité mixte entre le Cameroun et la RCA, c'est ce comité qui sera chargé de réexaminer de fond en comble les différentes préoccupations qui n'ont pas obtenu de satisfaction.
De son côté, Jean-Ernest Ngalé Bibéhé, ministre camerounais des Transports, affirme que Yaoundé souhaite trouver une solution rapide à cette crise.
L'autre problème que nous avons rencontré, c'est celui, bien entendu, qui a trait à la pandémie qui nous concerne aujourd'hui, qui a été également responsable d'une absence de productivité et d'efficacité de nos transporteurs. Donc là aussi, nous avons pu nous rendre compte que les deux pays sont en phase pour travailler de concert.
À cause de son enclavement, la République centrafricaine dépend à presque de 95% du port de Douala pour l'importation de ses marchandises et pour l'aide humanitaire qu'elle reçoit de l'étranger.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Avec plus de 3 millions de cas et plus de 137 000 décès, le coronavirus fait payer un lourd tribut aux États-Unis. Alors que le nombre de nouvelles infections ne cesse d'augmenter, les Américains sont encouragés à porter le masque en public pour permettre le ralentissement de la propagation de la maladie. Reportage de Ken Farabo de la VOA, repris ici par Lionel Gahima.
À Elkhart Lake, dans le Wisconsin, les amateurs de courses de voitures se sont réunis par milliers pour le premier événement public depuis que la pandémie de coronavirus a fermé les circuits automobiles à travers tout le pays. Le port du masque est encouragé, mais pas obligatoire. Matt Berg est un fan de la Formule 1.
C'est l'une des meilleures courses du monde, donc ils prennent des précautions, tout le monde prend des précautions. Je n'avais aucune inquiétude à l'idée de sortir.
Pareil pour Jim Cossard, venu assister à la course.
Tout le personnel, les pilotes et tout le monde portent des masques, mais je ne pense pas que les fans soient aussi bons à ce sujet.
En Floride, l'un des États ayant enregistré une fulgurante augmentation de nouveaux cas de COVID-19, le fameux parc de Disney a rouvert ses portes à Orlando pour la première fois depuis des mois. Le port du masque est obligatoire dans la plupart des zones de cet énorme parc d'attractions. L'amiral Brett Giroir est sous-secrétaire américain à la santé.
Pour les données dont nous disposons actuellement, il n'y a pas d'inconvénient à porter un masque.
Il souligne que les masques pourraient empêcher la propagation des virus, particulièrement pour les régions où la contagion est en hausse.
Il est vraiment essentiel de porter un masque en public. Nous savons que cela va réduire la propagation de particules à d'autres personnes.
Après des semaines de résistance, le président Donald Trump a porté un masque en public pour la première fois lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington, D.C.
Je pense que lorsque vous êtes à l'hôpital, dans cet environnement particulier où vous parlez à beaucoup de soldats et à des personnes qui, dans certains cas, viennent de quitter la table d'opération, je pense que c'est un grand jour pour porter un masque. Je n'ai jamais été contre les masques, mais je pense qu'il y a un moment et un lieu pour cela.
En somme, tout le monde recommande le port du masque, mais ce n'est pas la seule mesure pour stopper la propagation du coronavirus. Amiral Brett Giroir, sous-secrétaire à la santé.
Il faut vraiment fermer les bars. Il faut diminuer la capacité des restaurants. Il faut se distancier physiquement. Il faut que les gens portent un masque en public. C'est absolument essentiel. Et vous devez avoir une bonne hygiène des mains.
C'est une course contre la montre qui est engagée ici aux États-Unis dans l'espoir qu'un jour, on pourra enfin dire qu'aucun nouveau cas n'a été signalé dans tout le pays.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui.